Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer le château de Bagatelle, en plein cœur du bois de Boulogne, un lieu rarement ouvert au public, mais qui devrait ouvrir à la visite dès la fin 2024, après une grande campagne de restauration menée par la Fondation Mansart. Pour ma part, j'ai eu la chance de visiter en avant-première ce petit château étonnant, et je vous invite donc à me suivre à la découverte de son histoire, une histoire intimement liée à celle de son propriétaire et commanditaire, le comte d'Artois, frère de Louis XVI et ami de la reine Marie-Antoinette, un prince qui organisera ici de nombreuses fêtes mémorables. Au cœur du bois de Boulogne, près de la Cossue Neuilly-sur-Seine, s'élève le château de Bagatelle, un joli pavillon de style néo-palladien, délicatement posé au cœur d'un élégant parc et de jardins aujourd'hui très appréciés des Parisiens. Un lieu à la réputation quelque peu sulfureuse, qui porte l'empreinte de chacun de ses propriétaires successifs et qui reste inévitablement lié au plus célèbre d'entre eux, le comte d'Artois, second frère de Louis XVI et futur Charles X, qui organisera ici de nombreuses fêtes. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, le nom de Bagatelle, qui dérive de l'italien bagatella désignant ce qui a peu d'importance, qualifiait ce qui relevait de la frivolité, comme ici, ce lieu d'apparat sans autre utilité que celle de la fête et de la débauche. Les jardins et les bâtiments qui composent le domaine sont la propriété de la ville de Paris depuis 1905. La gestion et l'entretien du château ont été confiés à la Fondation Mansart qui, depuis 2021, en assure la restauration. Les extérieurs d'abord, menuiseries, toitures et façades, puis les décors intérieurs. Une rénovation qui doit ainsi logiquement conduire à sa réouverture au public d'ici fin 2024. Pour ma part, j'ai eu la chance de visiter ce lieu d'histoire en avant-première en décembre dernier grâce à la Fondation Mansart et d'explorer les pièces vides mais richement décorées de ce qu'on appelait alors la folie d'Artois où l'esprit de fête semble encore résonner de la musique et des rires d'autrefois. Une visite lors de laquelle j'ai pu m'entretenir avec Océane Léonard, assistante chargée de communication au sein de la Fondation Mansart et dont je vous propose de retrouver l'interview à la fin de ce podcast. Elle y explique entre autres la mission de la Fondation, ainsi que les enjeux et objectifs de la restauration du domaine de Bagatelle, mais elle partage aussi et surtout quelques anecdotes parfois méconnues sur son histoire et ses curieux propriétaires. Alors, sans plus attendre, je vous invite à me suivre à la découverte de l'histoire de ce château de réception et d'en explorer quelques-unes des pièces principales, sans filtre et encore partiellement brutes de toute rénovation. Si le château actuel, daté de 1777, est bel et bien une commande du comte d'Artois à son architecte François-Joseph Bélanger, l'histoire du domaine de Bagatelle remonte quant à elle au début du XVIIIe siècle. À cette époque et lors des siècles précédents, le bois de Boulogne est réservé aux chasses royales. Il est alors clos par plusieurs portes, des portes gardées par des portiers qui logent dans des pavillons mis à leur disposition. L'une de ces résidences de fonction, l'un de ces pavillons, l'ancêtre du château de Bagatelle situé près de Neuilly, héberge Louis-Paul Bélanger, avocat à la cour des aides, avant d'accueillir en 1720 le duc d'Estrées, maréchal de France. Ce dernier, le duc d'Estrées, va décider de transformer sa demeure en un luxueux pavillon qu'il va ensuite offrir à son épouse. Son épouse, qu'on appelle alors la maréchale, a la réputation d'être de toutes les fêtes. Elle compte d'ailleurs pour bonne amie la comtesse Louise-Anne de Bourbon, fille légitimée de Louis XIV et de sa favorite Madame de Montespan, plus connue sous le titre de Mademoiselle de Charolais. Mademoiselle de Charolais qui vit dans le château de Madrid tout proche et qui est réputée à l'époque pour sa débauche et son faible pour le libertinage. Très vite, la résidence de la maréchale devient le lieu de fastueuses soirées aux mœurs débridées où, parmi les habitués, on peut croiser Philippe d'Orléans, alors régent du royaume pendant la minorité de Louis XV, mais aussi plus tard le jeune roi lui-même qui ne manque pas d'assister aux fêtes galantes désormais célèbres de ce pavillon qu'on surnomme déjà Bagatelle. Notez que ce surnom fait ici référence à la fois à la frivolité des événements qui s'y déroulent, mais aussi, avec ironie, au prix démesuré qu'a coûté cette petite construction, entre guillemets bien sûr, petite construction. À la mort de la maréchale et duchesse d'Estrées, le 11 juin 1745, le domaine est revendu et plusieurs propriétaires se succèdent jusqu'à ce qu'Étienne Guinaud, marquis de Montconseil, un haut gradé militaire, en prenne possession. Comme le duc d'Estrées, le marquis laisse les rênes de son pavillon à son épouse qui, comme la maréchale avant elle, y organise de nombreuses soirées et de fêtes libertines auxquelles est toujours conviée la sulfureuse Mademoiselle de Charolais. En 1770, pour des raisons financières et alors qu'elle vient pourtant d'agrandir son parc, la marquise de Montconseil n'a d'autre choix que de revendre son domaine. Après l'aristocrate Monsieur de Boisgelin en 1772 et le financier Laurent Grimaud de La Reynière en 1774, c'est Philippe Gabriel de Hénin-Liétard, prince de Chimay, qui en devient propriétaire. Ce dernier n'est autre que le capitaine des gardes de Charles-Philippe de France, comte d'Artois et frère du nouveau roi Louis XVI. Alors qu'un jour il rend visite à son capitaine, le comte d'Artois tombe immédiatement sous le charme du domaine de Bagatelle qu'il s'arrange pour racheter le 1er novembre 1775. Son idée est claire, il veut transformer ce pavillon en un château dédié aux fêtes et aux divertissements. un lieu qui lui permettra aussi de gagner en liberté et de fuir la cage dorée qu'est le château de Versailles. Alors le temps a fait son œuvre et le pavillon des fêtes de la maréchale d'Estrées et de la marquise de Montconseil apparaît bien vétuste en cette fin de XVIIIe siècle, et le comte d'Artois envisage ainsi de remplacer l'ancienne demeure décrépie par un château digne des soirées fastueuses qu'il souhaite y organiser. Cependant, si son premier architecte, François-Joseph Bélanger, travaille déjà à l'architecture et aux décors intérieurs de sa future résidence, le comte d'Artois ne s'attend pas à ce que son projet devienne réalité si rapidement. Tout va en effet partir d'un pari initié par sa facétieuse belle-sœur, Marie-Antoinette. Nous sommes en septembre 1777. La jeune reine, qui connaît le côté joueur de son beau-frère, lui lance le défi de bâtir un château à la pointe de l'architecture de l'époque en seulement 100 jours, soit juste avant le retour à Versailles de la cour, alors en résidence à Fontainebleau. Piqué dans son orgueil et parce qu'il est joueur, le comte d'Artois accepte et parie 100 000 livres. Le chantier débute le 21 septembre 1777 sous la supervision de François-Joseph Bélanger et de son apprenti Jean-François Chalgrin, qui n'est autre que le futur architecte de l'Arc de Triomphe. Après 64 jours et nuits de travaux menés par plus de 900 ouvriers, le château de Bagatelle est prêt à être inauguré le 26 novembre suivant. Bien sûr, les décors et les aménagements intérieurs, qui ne sont pas totalement terminés, nécessiteront 2 années de plus, mais le défi est largement relevé et Marie-Antoinette n'a qu'à s'incliner, amusée par la réalisation ambitieuse de son ami et beau-frère. L'année suivante, en 1778, le comte d'Artois sollicite le jardinier écossais Thomas Blakey pour créer un jardin à l'anglaise des plus délicats, agrémenté d'étangs, de rivières et de chutes d'eau, mais aussi de fabriques et de sculptures à l'antique, des sculptures d'inspiration grecque, romaine et égyptienne. Au total, le comte dépensera une somme colossale pour construire son petit château et en aménager les jardins. On parle de plus d'1,2 million de livres, soit l'équivalent de plus de 13,5 millions d'euros, une fortune même pour le frère d'un roi. Rapidement, Bagatelle prend le surnom de « Folie d'Artois ». Alors ici, n'y voyez aucun lien avec les dépenses considérables qu'il a engendrées, puisqu'à l'époque, il est commun d'appeler « folie » ce type de résidence dédiée à la fête et aux réceptions. L'architecture néo-palladienne du château de Bagatelle, inspirée des palais vénitiens de la Renaissance, eux-mêmes inspirés de l'Antiquité, ainsi que le parc à l'esthétique on ne peut plus bucolique, force l'admiration de celles et ceux qui ont la chance d'y être invités. Parmi eux, citons par exemple le futur président des États-Unis d'Amérique, Thomas Jefferson, fidèle des lieux, ou l'architecte Friedrich Gilly, inspecteur royal des bâtiments à la cour de Prusse, pour qui le domaine est l'un des plus réussis de cette fin de siècle. Mais le domaine de Bagatelle ne séduit pas que la haute société. La population, qui est autorisée à se promener dans le parc, ouvert au public en l'absence du comte, adopte elle aussi rapidement ce coin de campagne situé à quelques pas de Paris. Alors, comme il l'avait prévu, le comte d'Artois organisera à Bagatelle de somptueuses fêtes. Des fêtes qui, bien souvent, dans leurs excès et leurs démesures, comme dans leur liberté de mœurs, ne dérogeront pas à la tradition des lieux et n'auront rien à envier aux soirées de la maréchale d'Estrées et de la marquise de Montconseil. Les extravagantes fêtes de la folie d'Artois dureront jusqu'à la Révolution qui marque l'exil du comte et de nombreux aristocrates. Cependant, bien que lié à la famille royale, le domaine, nationalisé et devenu propriété de l'Assemblée nationale, est épargné par le peuple qui garde en tête ses heureuses promenades dans le parc. On y organise alors des fêtes champêtres et un restaurant ouvre dans le château qui est ainsi préservé de la destruction. Après la Révolution, le château de Bagatelle est racheté en 1806 par l'empereur Napoléon Ier qui le rénove dans un style pompéien et le rebaptise Pavillon de Hollande en écho à sa résidence préférée, le Pavillon d'Italie, l'autre nom du château de Saint-Cloud. Plus tard, Napoléon aménagera les lieux pour son fils, le roi de Rome, né le 20 mars 1811. C'est d'ailleurs ici, à Bagatelle, qu'il donnera secrètement rendez-vous à son ex-femme, Joséphine, afin de lui présenter son seul et unique héritier, né de son mariage avec sa seconde épouse, l'impératrice Marie-Louise. Après la chute de l'Empire, sous la Restauration, le domaine revient au comte d'Artois, de retour en France, qui l'offre à son fils, Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry. Après l'assassinat de ce dernier dans la nuit du 13 au 14 février 1820, son épouse, la duchesse de Berry, reviendra régulièrement sur les lieux de son bonheur perdu, accompagnée de son fils, Henri d'Artois, duc de Bordeaux, futur comte de Chambord et héritier du trône. Ce dernier se trouvera d'ailleurs à Bagatelle quand éclate la Révolution des Trois Glorieuses, les 27, 28 et 29 juillet 1830, ces Trois Glorieuses qui conduiront sur le trône Louis-Philippe d'Orléans, un cousin de son père. Arrivé au pouvoir, le nouveau roi des Français décide de vendre les châteaux de Bagatelle et de la Muette. Le 8 octobre 1835, la folie d'Artois et son domaine de 16 hectares sont ainsi achetés par Richard Seymour Conway, marquis d'Hertford. Grand collectionneur d'art, de mobilier et d'objets décoratifs du XVIIIe siècle, il entreprend de grands travaux de restauration du château tout en conservant la configuration et les décors d'origine, non sans quelques remaniements tout de même. L'étage est ainsi rehaussé en 1864 et le dôme va être créé. À l'extérieur, des balustrades sont ajoutées pour dissimuler ce rehaussement et à l'intérieur, de nouvelles cheminées sont créées au rez-de-chaussée et certains éléments de décor sont déplacés. Après la chute de la monarchie de juillet de Louis-Philippe en 1848 et l'avènement du Second Empire en 1852, Richard Seymour Conway profitera du rattachement du Bois de Boulogne à Paris pour agrandir son domaine, qui va désormais s'étendre sur 24 hectares. Il y fait élever de nouvelles fabriques, dont un kiosque chinois, et y installe de nombreuses statues qu'il a chinées. Le marquis d'Hertford résidera souvent dans sa résidence de Bagatelle, où il recevra régulièrement l'empereur Napoléon III, l'impératrice Eugénie et leur fils, le prince impérial, pour qui il fera installer un manège de chevaux. La réputation de Bagatelle est telle à cette époque que la reine Victoria en personne y sera reçue à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris en 1855. À la mort de Richard Seymour Conway en 1870, le domaine revient à son fils, Lord Richard Wallace. Ce dernier va continuer les transformations du château grâce au talent de l'architecte de son père, Léon de Sanges, et ainsi, en 1872, pour agrandir la cour d'honneur, il va faire détruire le pavillon dit des pages qui s'y trouvait jusqu'alors et reconstruire deux petits pavillons pour les gardiens, toujours visibles aujourd'hui. Mais son œuvre la plus remarquable est certainement le Trianon de Bagatelle, dont le nom fait directement référence au petit Trianon de Versailles. Ce bâtiment, Wallace le fait ériger pour son fils Edmond, qui n'y viendra pourtant jamais et qui malheureusement mourra jeune. Alors, à propos de Richard Wallace, saviez-vous qu'il sera l'inventeur des fontaines Wallace que l'on trouve un peu partout dans Paris? En effet, si vous avez déjà arpenté, les rues de la capitale, vous avez certainement remarqué les célèbres fontaines Wallace, en fonte vert foncé et décorées de quatre cariatides au milieu desquelles coule un filet d'eau potable. On en dénombre 107 dans la capitale aujourd'hui, et leur nom est directement lié à leur inventeur, Sir Richard Wallace, donc le propriétaire de Bagatelle. Alors, pourquoi ce dernier décide-t-il d'offrir des fontaines aux Parisiens? Il faut d'abord savoir que l'eau a toujours été un enjeu à Paris. Dès Philippe Auguste, au XIIIe siècle, la population grandissante accentue la pollution des eaux de la Seine. Deux aqueducs souterrains sont créés pour alimenter trois nouvelles fontaines, dont celle des Innocents, mais c'est insuffisant. Ensuite, si à la Renaissance on réalise des fontaines monumentales, on ne comptera toujours à Paris que 35 fontaines en 1669 et 127 en 1835. Ce sont, avec la Seine polluée, les seuls points d'accès à l'eau, car comme vous le savez, l'eau courante dans les immeubles, bien qu'expérimentée en 1784, n'est pas encore d'actualité. Plus tard, sous le Premier Empire, quand Napoléon demande à Chaptal, préfet de Paris, ce qui ferait plaisir aux Parisiens, il se voit répondre « Donnez-leur de l'eau ». En effet, l'eau manque, elle est souvent insalubre et draine des maladies. Seuls les plus riches peuvent se payer de l'eau potable, et ainsi, pendant longtemps, les plus pauvres n'ont eu de choix que de boire du vin ou de la bière pour se désaltérer, entre guillemets, se désaltérer bien sûr, sans se contaminer. Par la suite, bien que Napoléon III ait amélioré l'accès à l'eau potable avec les réaménagements d'Haussmann et la création des égouts et l'acheminement d'eau fraîche par Eugène Belgrand, directeur de l'eau et des égouts de Paris, la situation va rester critique. Elle se détériore même pendant la guerre franco-prussienne de 1870-1871, qui voit s'accentuer le manque d'eau potable avec le siège de Paris par les Prussiens, et puis elle va encore s'aggraver lors des affrontements liés à l'épisode de la Commune de Paris entre le 18 mars et le 28 mai 1871. C'est alors qu'intervient Richard Wallace. Resté à Paris pendant la Commune, il a vu les plus pauvres, dont les enfants, s'enivrer et se condamner à une vie de misère à cause du manque d'eau potable et abordable. Fortuné et philanthrope, il décide alors d'agir et d'offrir à la ville des points d'eau potable gratuits. Amateur d'art, il souhaite des fontaines décoratives, afin de joindre l'utile à l'agréable. Il dessine alors un modèle et fait appel au sculpteur nantais Charles-Auguste Lebourg, qui va adapter ses croquis et faire de ces fontaines Wallace de véritables œuvres d'art. 50 seront installées dès 1872, puis Wallace en commandera 10 de plus en 1876 et 10 autres en 1879. Quatre modèles existent aujourd'hui, mais Richard Wallace ne concevra que deux modèles, le classique autoportant et un mural. La fontaine Wallace mesure 2,75 m et pèse 590 kg, et Wallace l'a voulu, je cite, assez grande pour être vue de loin, mais pas trop grande pour détruire, l'harmonie du paysage environnant. En fonte vert foncé pour se fondre dans le paysage, les fontaines Wallace présentent quatre cariatides qui, dit-on, seraient inspirées de celles de la salle des cariatides réalisées par Jean Goujon au Louvre. Elles représentent quatre vertus, la gentillesse, la simplicité, la charité et la sobriété, même si certains y voient les quatre saisons. Le filet d'eau continu assurait la qualité de l'eau et empêchait les chiens errants d'y boire, tout comme les chevaux qui ne pouvaient y accéder, l'espacement entre les cariatides étant trop étroit. Si à l'origine deux tasses de fer blanc étaient accrochées à des chaînettes pour permettre d'y boire, elles ont bien sûr été retirées en 1952 pour des raisons évidentes d'hygiène. De nombreuses répliques existent aujourd'hui, pas uniquement à Paris d'ailleurs, mais pour reconnaître les fontaines originales, fiez-vous aux inscriptions ch.lebourgsc du nom du sculpteur, avec l'année 1872 et Valdonne du nom de la fonderie. Voilà, alors après cette pause anecdote, revenons à Bagatelle. C'est ici que Richard Wallace finit sa vie, reclus dans son château. À sa mort en 1890, son épouse, Julie Castelnau, plus connue comme Lady Wallace, hérite de tous ses biens en France et au Royaume-Uni. En 1894, à sa mort, elle lègue la majeure partie de la collection de son mari à la nation britannique, à la condition que les œuvres, les objets d'art et le mobilier soient exposés au public. La résidence familiale anglaise, Hertford House, est alors transformée en un musée dédié aux collections de Richard Wallace, et c'est ainsi qu'est née la célèbre Wallace Collection qui ouvre en 1900 et que l'on peut toujours visiter aujourd'hui. À Paris, Bagatelle, comme l'immeuble que possédait Richard Wallace rue Lafitte, sont légués à son secrétaire et homme de confiance, John Murray Scott, qui va vendre le château et son domaine à la ville de Paris en 1905. La réputation sulfureuse de Bagatelle reprendra alors un peu de sa superbe à cette époque, le château, fermé au public, devenant un lieu de rendez-vous prisé pour les amants clandestins. Notez qu'il en sera de même jusque dans les années 1970. Pour ce qui est du parc, le commissaire au jardin de la ville en 1905, Jean-Claude Nicolas Forestier, est chargé de le réhabiliter. En 1907, il va créer la sublime roseraie de Bagatelle et lancer le concours international de roses nouvelles, un concours qui est encore organisé chaque année au mois de juin et qui continue d'animer les jardins. La notoriété du château et de son domaine ne faiblira pas au fil des années, au point que de nombreux événements prestigieux y seront organisés. Ainsi, en juillet 1938, le président de la République Albert Lebrun invitera le roi George VI et la reine consort Élisabeth, la mère de la future reine Élisabeth II. Donc le roi George VI et la reine consort sont invités à une garden party en l'honneur des relations franco-anglaises dans les jardins Bagatelle. Puis en mai 1974, une réception sera organisée en l'honneur du président nouvellement élu Valéry Giscard d'Estaing, donc toujours à Bagatelle. En 1992, la reine Élisabeth II et le prince Philippe visiteront le Rosarium accompagnés du président François Mitterrand et du maire de Paris de l'époque Jacques Chirac. Et en 1995, le prince Joachim du Danemark inaugurera ici la nouvelle variété de roses Flora Danica. Bien plus récemment, en 2019, la Fondation Mansart se voit confier la mission de restaurer le château de Bagatelle dans l'optique d'une réouverture d'ici la fin 2024. Lancé en 2021, les travaux doivent à la fois rénover les bâtiments comme les décors, tout en optimisant l'accueil du public. Lors de ma visite, seuls les extérieurs du château de Bagatelle et une partie des décors du rez-de-chaussée étaient rénovés. J'ai cependant eu la chance de visiter aussi l'étage et le toit, et d'explorer ainsi, non sans excitation, ces espaces chargés d'histoire, encore dans leur jus. Pour retrouver ma visite complète du château de Bagatelle, je vous donne rendez-vous dans l'article illustré sur mon site, lescarnetsdigor.fr. En attendant, je vous propose un point rapide sur les pièces les plus emblématiques qui m'ont particulièrement marqué lors de ma venue. Alors, les espaces qui m'intéressent plus particulièrement ici, d'abord, sont le vestibule et l'escalier. Ce sont également ceux que l'on rencontre bien sûr dès notre arrivée. En effet, comme les visiteurs privilégiés du comte d'Artois, nous sommes accueillis dans le vestibule qui marque le passage des espaces publics, donc la cour et le parc, vers les espaces privés. Par ses volumes et ses effets en trompe-l'œil, cette pièce d'entrée doit impressionner et donner un esprit de grandeur à ce petit château. On remarque alors les quatre médaillons en stuc qui mettent en scène les triomphes de l'amour. Réalisés par Nicolas L'Huillier dans un style à l'antique aux accents tout érotiques, ils confirment aux visiteurs dès leur arrivée qu'ils sont bien ici dans un lieu de fête débridé. À droite, le vestibule ouvre sur la salle de jeu ou salle de billard et à gauche sur la salle à manger, tandis qu'en face, il débouche sur un escalier en colimaçon qui conduit à l'étage. Le style de cet escalier, pourtant d'origine, est assez moderne et il servira d'ailleurs de modèle pour d'autres escaliers de l'époque. Il présentait en outre une petite originalité qui plaisait beaucoup aux messieurs qui attendaient dans le vestibule. En effet, une ouverture à mi-hauteur de l'escalier laissait apparaître les chevilles des dames qui montaient les marches. Au pied de l'escalier, le poêle date également de la construction du château. Il est assez révolutionnaire pour l'époque puisqu'il permettait, par un jeu de tuyauterie, de chauffer les pièces attenantes grâce à des grilles au sol qui soufflaient de l'air chaud. Le buste qui s'y trouve, lui, est en revanche une reproduction de celui de Richard Wallace, l'original étant désormais exposé à la Wallace Collection de Londres, et il faut savoir qu'à l'époque du comte d'Artois, se trouvait ici un candélabre représentant une muse. Alors pour la suite, je ne vais pas m'attarder dans la salle à manger ni dans la salle de jeu, même si les décors et boiseries sont dignes d'intérêt, et je vais directement vous conduire dans le magnifique salon de musique. Le grand salon ou salon de musique est certainement la pièce la plus remarquable et la plus belle du château de Bagatelle. Lorsqu'on y pénètre, on est immédiatement saisi par la beauté des décors et l'ampleur des volumes de cette pièce de réception circulaire située dans une rotonde sous coupole. Autour de nous, 8 arcades rythment l'architecture des lieux, séparées par 8 pilastres décorés des stucs de Nicolas L'Huillier. Réalisés d'après les dessins de François-Joseph Bélanger, ces décors sculptés représentent en alternance la muse de l'harmonie jouant de la lyre et celle de la renommée trônant sur un globe, dit aussi la muse à la trompe marine. Au-dessus de ces figures symboliques, Jean Démosthène Dugourc a imaginé des petits camées à l'antique, présentés sur un fond de marbre en trompe-l'œil. Alors il faut imaginer qu'en soirée, ces reliefs élégants scintillaient à la lueur des flammes des bougies, et qu'en journée, l'oculus du sommet de la coupole, ainsi que les trois portes-fenêtres situées sous arcades et ouvrant sur les jardins, éclairaient des rayons du soleil les couleurs délicates des boiseries et des décors. Autres éléments remarquables ici, le magnifique parquet en étoile qui répond à l'arrondi de la coupole, ou encore la cheminée en marbre blanc, qui date, elle, des réaménagements de Lord Hertford en 1862, et qui est surmontée, cette cheminée, d'un grand miroir placé en face des portes-fenêtres, afin de renvoyer la lumière naturelle à l'ensemble de la pièce. Enfin, on trouvait ici un élégant mobilier de Georges Jacob et de Jean-Baptiste Boulard, un mobilier absent lors de ma visite, qui se composait entre autres de 8 fauteuils et 16 chaises réparties autour d'une table ronde créée, elle, par Pierre de Nizot. Mais la particularité de ce salon, élément central des réceptions du comte d'Artois, c'est en réalité la présence des deux petites pièces attenantes, dont le rôle laisse à supposer le caractère quelque peu libertin des fêtes organisées ici. La première d'entre elles, le boudoir, est située à droite lorsque l'on fait face aux fenêtres du salon de musique. Ce boudoir surprend d'abord par la bassesse de son plafond. En réalité, il est placé sous un demi-étage que rejoignaient les musiciens afin de jouer lors des fêtes du comte d'Artois. Une fenêtre ouvrant sur le salon de musique permettait alors aux instruments d'être entendus par les convives. Les décors peints de ce boudoir, comme ceux des portes réalisées par Dussot et Dugourc, sont d'une délicatesse et d'un raffinement exceptionnels, et les murs étaient également agrémentés de tableaux d'Antoine Callet. Ce boudoir dispose par ailleurs d'une alcôve qui accueille un canapé ou un lit de repos, un canapé dont on peut imaginer évidemment l'usage à la grande époque des soirées légères du comte d'Artois. De l'autre côté du salon de musique se trouve une seconde petite pièce faisant, elle, office de cabinet des bains. Alors, cela peut paraître curieux qu'une telle pièce prenne place directement à proximité d'un salon de réception. Cependant, l'explication est simple. Elle tiendrait d'abord, en réalité, au manque de place à l'étage qui ne permettait pas d'accueillir une salle de bain digne de ce nom. On aurait ainsi transformé en cabinet des bains ce second boudoir prévu à côté du salon de musique. Cependant, d'autres langues plus acerbes donneront une seconde explication plus osée, mais invérifiée jusqu'à aujourd'hui. En effet, lorsque l'on parle de la fête à Bagatelle, on parle bien sûr de toutes sortes de fêtes. Et dans ce haut lieu du libertinage, il est facile d'imaginer l'utilité quelque peu sulfureuse d'un tel cabinet des bains partagé par les différents convives. Quoi qu'il en soit, ce boudoir cabinet des bains est décoré de peintures signées Hubert Robert et Antoine Callet. Les originaux ne sont plus à Bagatelle, ceux d'Hubert Robert sont par exemple exposés au Met de New York, mais on peut y admirer des reproductions qui laissent à imaginer l'atmosphère de cette petite pièce dédiée aux bains. Il faut en outre savoir que ce cabinet pouvait être transformé en boudoir à tout moment grâce à sa baignoire qui, cachée dans une niche, pouvait devenir canapé. Voilà, alors il y a bien d'autres pièces tout aussi intéressantes à explorer, mais pour le moment, je vous propose de retrouver mon entretien avec Océane Léonard, assistante chargée de communication au sein de la Fondation Mansart, qui va nous en dire plus sur l'histoire et les secrets de l'intrigant château de Bagatelle. Le château de Bagatelle est aujourd'hui en pleine restauration, une restauration menée par la Fondation Mansart, pour laquelle vous travaillez, et qui est en charge, donc la Fondation Mansart, des lieux depuis 2019. D'abord, pouvez-vous nous préciser en quelques mots ce qu'est la Fondation Mansart, son rôle et ses missions? Puis ensuite, pouvez-vous nous expliquer le contexte dans lequel se fait cette rénovation? Pourquoi avez-vous décidé de rouvrir au public cet été le château de Bagatelle?
Eh bien, la Fondation a été fondée en 1983 par Jean Inde. La Fondation Mansart a été créée dans le but de sauvegarder le château de Maintenon, hérité des ducs de Noailles par la famille de Rindre. D'abord baptisée la Fondation du château de Maintenon, elle a été reconnue d'utilité publique en 2005. Sa mission principale consiste à restaurer, valoriser le patrimoine, qu'il soit architectural, historique, artistique ou même naturel, afin de le rendre le plus accessible possible. C'est dans cette dynamique que la Fondation Mansart a obtenu une convention de sous-occupation du château de Bagatelle, avec comme objectif son ouverture au public. En 2021, les travaux extérieurs ont démarré et le chantier a duré seulement 7 mois. C'est maintenant au tour du Trianon de Bagatelle d'être restauré pour que l'ensemble du domaine puisse retrouver sa splendeur. Comme nous souhaitons une ouverture simultanée des lieux, les travaux intérieurs du château et du Trianon se feront au même moment, de sorte à pouvoir accueillir les visiteurs à partir de 2024. Nous voulons que les Franciliens puissent à nouveau profiter de ce trésor patrimonial encore trop méconnu.
Super, c'est vrai que c'est une restauration assez rapide.
Oui.
Mais moi, je viens de visiter les lieux et franchement, déjà, l'extérieur, c'est parfait. J'attends de voir maintenant les restaurations intérieures. Alors justement, concernant la restauration et l'ouverture prochaine, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la présentation des espaces a été conçue et comment le parcours de visite, quel est le parcours de visite que les Parisiens ou les touristes vont pouvoir suivre, selon quelle thématique, quelle période historique on va retrouver?
Alors, le château de Bagatelle témoigne de multiples époques historiques et a abrité des personnalités marquantes. La sous-terrasse, originellement destinée aux domestiques après la destruction du pavillon des pages en 1873, sera réhabilitée pour accueillir les visiteurs. Elle sera conçue comme un centre d'interprétation et servira ainsi à expliquer en détail l'histoire de l'ensemble du domaine de Bagatelle, de la construction du château à nos jours. Le château, lui, sera réaménagé en un musée riche en mobilier et en peintures originales du XVIIIe siècle, grâce à des prêts du Mobilier national et de collectionneurs privés. La restauration menée vise à retrouver le château tel qu'il était à l'époque de Sir Richard Wallace, préservant l'essence du XVIIIe siècle. Le rez-de-chaussée sera dédié au XVIIIe siècle avec une attention particulière portée sur des figures telles que Marie-Antoinette et le comte d'Artois. L'étage présentera les appartements du comte, inspirés d'une tente militaire, ainsi que des espaces dédiés à Napoléon Ier, la duchesse de Berry, le quatrième marquis d'Hertford et Sir Richard Wallace, à l'origine des fontaines éponymes.
Très bien, donc en fait, effectivement, si je résume, on a vraiment le 18e siècle qui est au centre avec le château réaménagé dans son style 18e siècle,
C'est ça.
comme on pouvait le voir au moment du lorsque le comte d'Artois le fréquentait. Et puis on a à l'étage, d'un côté, son appartement privé et de l'autre côté, des pièces dédiées aux principaux propriétaires importants comme Napoléon, bien sûr, ou Sir Richard Wallace, le dernier propriétaire privé. Et donc, parmi toutes ces pièces, plus personnellement, si vous deviez en choisir, alors deux ou trois, hein, j'en sais rien, enfin c'est assez libre, des pièces coup de cœur, quelles seraient-elles et pourquoi?
Alors pour ma part, le salon de musique de Bagatelle est une pièce dont je ne me lasse jamais. Conçu par Bélanger, l'architecte du château, il s'inspire des loges Raphaël du Vatican et il est agrémenté de stucs de l'huilier. La coupole peinte qui domine la pièce est remarquablement préservée. Chaque détail de cette salle raffinée est soigneusement travaillé, créant une harmonie unique. Ce qui distingue Bagatelle, c'est le rapport au volume qui, contrairement à la plupart des châteaux, n'opprime jamais. Il y a une sorte d'harmonie. Le vestibule est tout aussi intéressant, avec son poêle centralisé novateur en face de l'entrée et un escalier en colimaçon situé au-dessus du poêle qui a été largement reproduit dans d'autres demeures. La chambre du comte d'Artois, évoquant une tente militaire, en a aussi beaucoup inspiré.
Oui, alors pour l'instant, moi je ne l'ai pas vue, on la voit pas parce qu'elle est en pleine restauration, mais par contre, effectivement, l'escalier, le poêle est juste sublime et surtout hyper innovant pour l'époque. Et puis le salon de musique, je suis d'accord là-dessus, vraiment c'est impressionnant quand on rentre dans cette pièce. Pour l'instant, elle n'est pas meublée, mais malgré tout, les décors, les détails, la coupole, etc., enfin, c'est très bien conservé d'une part et puis en plus, assez impressionnant. Alors du coup, ce lieu Bagatelle, on l'a vu, est riche d'histoire, hein, riche de nombreux propriétaires qui sont succédés, mais aussi, j'imagine, riche d'anecdotes. Est-ce que vous avez en tête une ou deux anecdotes qui seraient déroulées ici et que vous pourriez partager avec nous?
La construction du château est une anecdote captivante. Le château est né à l'issue d'un pari entre Marie-Antoinette et son beau-frère, le comte d'Artois, qui sera le futur Charles X. Tous les deux amis et habitués des jeux, pour le retour de la cour qui s'en va à Fontainebleau, la reine désire une demeure où festoyer. Pour cela, elle donne 100 jours, pas un de plus. Le comte accepte le défi et y ajoute un enjeu en misant la colossale somme de 100 000 livres. C'est en faisant travailler jour et nuit plus de 900 ouvriers qu'il parvient à faire sortir de terre le château en 64 jours seulement.
Incroyable. Et vous me disiez que les plans du château ont été dessinés en une nuit, c'est ça?
Oui, c'est ça, en fait, par Bélanger et son apprenti Charles Grin.
Chalgrin qui sera en fait après l'architecte de l'Arc de Triomphe. Bon,
Exactement.
petite info. D'accord. Une autre anecdote peut-être?
L'une des anecdotes les plus émouvantes liées au château, à mon sens, concerne Joséphine de Beauharnais. Donc, comme vous le savez, elle se voit contrainte de divorcer de Napoléon en raison de son
En
incapacité à lui
1809,
donner
oui.
un héritier. Par la suite, Napoléon épouse Marie-Louise d'Autriche, qui devient la nouvelle impératrice et donne naissance à son fils quelques mois plus tard. Joséphine, touchée par cette situation, décide de le rencontrer en secret au château de Bagatelle. Cette rencontre demeure clandestine car la nouvelle impératrice était consciente de l'affection de Napoléon
Oui,
par
ça c'est
sa
sûr.
première épouse et elle refusait qu'elle rencontre l'enfant officiellement. Ce moment poignant a été relaté par la gouvernante du fils de Napoléon qui décrit Joséphine en pleurs dans le grand
Oui,
salon.
forcément. Et donc ça s'est fait ici à Bagatelle. Ça c'est hyper
Exactement.
émouvant, effectivement. C'est un grand moment d'histoire. Et puis enfin, donc une dernière question pour vous. Donc au-delà du château de Bagatelle, on va sortir un peu des lieux qui sont magnifiques, mais il y a d'autres choses à proximité intéressantes aussi. La Fondation Mansart est aussi engagée donc dans la restauration d'autres sites et bâtiments comme le Trianon, qui est vraiment juste à côté du château de Bagatelle, ou encore la Villa Windsor, ces deux bâtiments qui vont rouvrir également en 2024. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et nous préciser quand tous ces lieux rouvriront exactement? Enfin, alors peut-être pas une date précise si vous ne l'avez pas, mais en tout cas un ordre d'idée, parce que je suis sûr que les amoureux du patrimoine qui nous écoutent seront ravis de savoir que d'autres lieux sont en projet d'ouverture à la visite dans la région parisienne.
En effet, nous avons moins parlé de la Villa Windsor, mais depuis début 2023, la Fondation Mansart œuvre à la restauration, à l'aménagement et à l'ouverture au public de la Villa Windsor pour inviter à la découverte du mobilier et des objets d'art du début du XXe siècle, tout en mettant en valeur l'histoire des sites et en favorisant l'éducation culturelle. Elle souhaite créer un environnement polyvalent et dynamique en proposant des activités culturelles, des événements récréatifs et des espaces de restauration conviviaux, encourageant ainsi le lien social, les initiatives locales et la valorisation de la biodiversité au sein du parc et des bâtiments annexes. En effet, la Fondation travaille à la restauration et à l'ouverture au public de ces sites qui sont proches géographiquement, car tous au cœur du bois de Boulogne. L'objectif est de pouvoir offrir un parcours complet en abordant plusieurs siècles d'histoire parisienne et franco-anglaise, du XVIIIe siècle avec Bagatelle au XXe siècle avec la Villa Windsor, en passant par le XIXe avec le Trianon. Le patrimoine artistique sera également mis en valeur grâce à la création des lieux d'exposition temporaires en partenariat avec des institutions culturelles au sein du Trianon et de la Villa Amelia, le premier étant juxtaposé au château de Bagatelle et la seconde à la Villa Windsor. Pour créer un grand ensemble, nous souhaiterions que l'ouverture au public soit la plus simultanée possible entre les différents sites.
Donc à l'été 2024, on espère que tout ça sera ouvert. Pour rappel, donc la Villa Windsor, vous disiez le XXe siècle, parce qu'effectivement, on pense à Wallis Simpson et Édouard VIII, enfin en tout cas l'ex-roi d'Angleterre Édouard VIII, qui a abdiqué dans les années 30 et qui s'est installé donc dans cette villa. Donc c'est vraiment là le XXe siècle. Vous avez le Trianon du XIXe siècle. Donc Trianon, effectivement, il est juxtaposé au château de Bagatelle, et lui, il a été créé par Sir Richard Wallace pour accueillir son fils qui va.
Qui n'est malheureusement jamais venu dans ces lieux, car décédé beaucoup trop tôt.
Il est mort avant, assassiné, effectivement. Et puis ensuite, Bagatelle, bien sûr, au XVIIIe siècle, bon, ça, on en a parlé. Donc voilà. Eh bien, merci, Océane. En tout cas, j'étais ravi d'échanger, puis ravi de visiter en avant-première ces lieux. J'ai hâte maintenant
Merci.
de les découvrir, rénover et réaménager. Et j'espère que vous serez nombreux aussi à les visiter. Merci.
Merci à vous.
Voilà, j'espère que l'histoire de Bagatelle ainsi que l'entretien avec Océane Léonard vous ont plu. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous rendre sur mon site, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette visite. Vous pourrez notamment en savoir plus sur le comte d'Artois et sur les différentes pièces qui composent son superbe château de Bagatelle. Vous pourrez également y découvrir d'autres histoires et visites de mes lieux historiques et culturels favoris, mais aussi diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. N'hésitez pas enfin à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Threads, TikTok et YouTube, où je partage toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et avant de conclure, je profite de ce podcast pour vous inviter à vous inscrire à la lettre des Carnets d'Igor, ma newsletter mensuelle dédiée à la culture, au patrimoine et à l'histoire. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de suivre le lien sur mon site, lescarnetsdigor.fr donc. Et en attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.